du Buena Vista Video Club.
Bonjour et bienvenue dans notre émission d'été de La Voix est libre. On est sur Radio Boomerang 89.7 FM avec Gaël, Natalka, comme d'habitude, toujours au poste, et Louise qui est là aujourd'hui avec nous. Alors on va vous présenter aujourd'hui une nouvelle invitée et on va échanger avec elle comme d'habitude pendant une heure. Alors salut Gaël, alors il paraît que toi tu as un programme un petit peu différent aujourd'hui.
Et oui, en fait, pour cette émission, ce qui va se passer, c'est que je vais écrire un poème en direct de l'émission, c'est-à-dire que je ne connais pas Alix, je vais la découvrir en même temps que vous, chers auditeurs, et donc lui offrir un poème express, un poème écrit sur l'instant.
Eh ben, on a hâte de découvrir cette nouvelle performance. À chaque fois, tu nous fais des bêtises avec les micros, Gaël. Il y a Natalka aussi hein, qui rayonne.
Là. Bienvenue à vous.
Salut.
Salut.
Et Louise. Salut, Louise. Alors, salut. Toi, tu vas peut-être prochainement nous présenter une émission. Donc, tu viens là sur cette émission d'été pour voir un petit peu comment ça fonctionne et commencer à participer activement aux émissions, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Je viens pour tâter le terrain, quoi, comme on dit.
Ok, bon, on va réfléchir aussi à l'invité que tu voudras accueillir ici dans les studios. Voilà, je pense qu'on peut parler, on peut commencer à parler de notre invité qui est là. Alors nous, on l'avait rencontré, alors on était à trois d'ailleurs, Nat et Gaël, on l'avait rencontré sur son terrain, si on peut dire ça comme ça, qui était celui de Fifkai. On l'avait rencontré pour une projection, elle nous avait accueillis, on avait trouvé son personnage un peu original et sympathique, et du coup on se disait que c'était parfait pour l'émission de La Voix est libre, surtout qu'elle porte un très beau projet qui va dans la ligne éditoriale de notre émission, donc c'était l'occasion. Donc il s'agit d'Alix. Bonjour Alix.
Bonjour.
Alors toi tu portes le projet Lilotopia, c'est ça?
Oui.
Alors est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots de quoi il s'agit? C'est une association qui est basée à FIV et je te laisse poursuivre.
Et nous exploitons une ferme urbaine, co-exploitons, puisqu'on la partage avec un réseau d'écoles d'ingénieurs. Mais notre objectif, nos deux structures, c'est de rendre notre petit espace sur l'ancienne usine de Fifkai Babcock, rendre cet espace comestible, productif au maximum, avec des techniques un peu plus high-tech pour Junia. Et nous, Lilotopia, on est plutôt sur des récupérations de matériaux, ou en tout cas des ressources qui peuvent être accessibles à tout un chacun autour de soi, dans son quartier. Et l'objectif, c'est de montrer qu'en ville, on peut produire sur des petits espaces, peut-être pollués ou bétonnés, mais que chacun peut accueillir la verdure et peut-être de la production pour son assiette. Et tout ça, en fait, ça change énormément de manière de voir après les rues, la production, les agriculteurs notamment, sa propre après consommation. Et finalement, notre ferme, c'est un lieu d'échange, pédagogie, mais aussi d'échange avant tout. Et ça qui est assez plaisant dans notre asso.
C'est un peu esprit permaculture, en fait.
Malgré le fait qu'on n'ait pas l'accès à la terre directement, mais on est sur des associations de culture, un mélange de fleurs, aromates et plantes maraîchères, finalement. On a testé quelques fleurs tinctoriales, là, pour peut-être proposer après ces fleurs pour la teinture.
Des fleurs quoi ?
Tinctorial. Oui. On connaît très bien un collectif qui s'appelle les Tinctorial, qui dissémine par-delà la métropole des fleurs ou plantes qui peuvent après être destinées à la teinture végétale. Et ça ne demande pas forcément du coup un sol finalement exempt de tout polluant, dans le sens où on peut en mettre partout pour le coup ces fleurs. Pour nous, notre textile peut-être, mais aussi pour les insectes, il ne faut jamais les oublier en ville.
Très bien, merci pour cette présentation. Et Lilotopia, c'est pourquoi ce nom? Tu peux nous en dire un peu plus?
Eh bien, du coup, à l'époque, j'y réfléchissais au début, au lancement avec d'autres membres. Et finalement, Lilo était un peu le petit espace de végétalisation qu'on voulait mettre en place sur cette ancienne usine de métallurgie. On voulait aussi recréer des îlots partout la ville. Donc, l'île est restée après notre premier mot donc pour l'assaut, mais on n'a pas mis deux ailes. On a voulu vraiment garder cet îlot de fraîcheur, cet îlot de végétalisation et l'utopia, pardon, pour montrer à chacun que réfléchir en fait à notre futur et qu'il soit le plus gai et le plus solidaire aussi possible, voilà, rêvons un peu, proposons-nous des nouvelles manières de vivre dans un quartier, de se retrouver, de produire, de créer, et nous on le fait à travers notre espace, puis on dissémine aussi les potagers dans d'autres espaces de la ville qu'on accompagne après pour qu'ils gèrent leur production.
D'accord. Louise, tu avais une question ?
Comment est né ce projet ?
Eh bien, c'est né de mon expérience professionnelle. À l'époque, j'étais salariée sur l'ancienne usine, un projet du coup qui se mettait en fait tout doucement en place, en balbutiement. C'était un peu un site pilote, qu'on appelait l'avant-goût. Avant que la vraie ferme allait se construire, une cuisine partagée aussi, qu'on appelle aujourd'hui la cuisine commune. Et cette expérience finalement d'animatrice et de gestion de production, où j'ai découvert à l'époque l'élevage de vers de farine, l'aquaponie, la culture de champignons en intérieur.
L'aquaponie ?
Non. L'aquaponie, c'est la contraction d'aquaculture et hydroponie. Donc, un élevage de poissons. Donc l'aquaculture, mais en symbiose avec une culture de fruits et légumes, aromates, en eau, l'hydroponie, culture hors sol. Et l'aquaponie, voilà, on a une table à marée avec un bassin de poissons à la ferme. Et finalement, je trouve que c'est une manière très résiliente par sa faible consommation d'eau et par sa... l'autosuffisance en engrais aussi, parce que les poissons, par leur déjection, nourrissent les plantes. Et les plantes filtrent le bassin des poissons. Donc c'est un échange assez intéressant. Mais voilà, je découvre tout ça il y a 3 ans maintenant, et le projet bougeait, puisque ce petit bout de friche de test pour réunir habitants, structures, à venir cuisiner, jardiner, créer un parc à poules, une grainothèque, enfin, tout ça était en plein test, on a eu la possibilité de déménager. Donc, mais personne voulait reprendre cet espace en fait de lien, de pédagogie. Du coup, l'ISA, l'Institut supérieur d'agriculture, à l'époque sur le projet, voulait continuer, mais plus pour porter des projets étudiants, pour tester avec des moyens plus importants la culture de champignons, l'aquaponie, avec une vraie efficience d'énergie sur le bâtiment. Voilà, nous, à l'île Utopia, enfin du coup à l'époque quand j'étais moi animatrice sur le petit espace de test, en fait on se retrouvait à faire juste des expérimentations entre nous, à mêler des assos entre elles, à accueillir du monde, nourrir les poules, et je trouvais que c'était cet esprit-là qui devait aussi vivre dans la future ferme. Donc voilà, petit à petit, l'idée a germé, j'ai voulu imaginer une activité professionnelle qui s'est révélée être une asso, et je trouvais que et aujourd'hui elle prend vraiment son sens, parce qu'on a une trentaine de membres et un conseil d'administration de 10 personnes qui m'épaulent vraiment bien sur ce projet. Voilà d'où vient le projet.
Donc c'est ton projet, enfin c'est toi qui l'as dessiné, on va dire, ou ça s'est fait collectivement ?
Je pense que c'était plutôt au début mes idées, ouais. Puisque j'ai pu poser tout ce que je voulais imaginer comme atelier de kit de production à fabriquer sur la ferme. J'ai au final retrouvé quand même plein de personnes qui m'ont rejoint, mais pour aménager la ferme, d'autres qui m'ont aidé à structurer un peu plus le projet. Je me suis fait accompagner aussi dans le lancement de cette structure, et je pense que là, au bout de 2 ans et demi, j'ai vraiment des personnes qui pourraient être capables de reprendre finalement toutes les valeurs du projet, puisque l'île Utopia en fait s'intègre aussi dans cette friche, et il y a pas mal d'activités, notamment un collectif qu'on appelle Chaud Bouillon, qui est un tiers lieu là qui va être enfin réuni avec 4 espaces, donc la ferme de notre côté pour germer des idées mais aussi des plantes cultivées, de plantes du coup, qui sont à destination d'une cuisine commune gérée par la ville de Lille. Et il y a une cuisine professionnelle qui s'est ouverte en face pour accompagner des personnes à monter leur projet autour de l'alimentation et se former aussi au métier de bouche. Et un food court va arriver en septembre, on l'attend depuis longtemps, mais c'est un espace du coup plutôt événementiel.
Un food court?
Un food court, yes.
I don't understand. Can you explain, please?
Yes, of course. C'est, je dirais, un espace ouvert à tous, de cantine, guinguette, en fait, comme a été préfiguré à l'époque à l'avant-goût sur les soirées d'animation, donc événements multiples et variés, culturels. Une costumerie va être aussi installée pour qu'on puisse, en échange d'une pièce d'identité, se déguiser en n'importe qui le soir. Il y aura un petit espace d'épicerie, une scène de spectacle. Voilà, donc c'est pas nous qui gérons, c'est Petite Lune, une autre entreprise qui gère très bien ça.
Petite Lune.
Oui,
c'est trop mignon.
Alors, Alix, moi, j'avais une petite question. Est-ce que tu es habitante dans le quartier Fives ou pas du tout?
Alors maintenant, oui. J'avoue que finalement, je suis tombée un peu amoureuse de ce quartier il y a 4 ans. Et je viens d'autres quartiers, notamment Moulins d'avant. Et là, ça fait 6 mois du coup que j'habite vraiment à côté de la ferme.
Oui, c'est tout récent. Du coup, c'est chouette.
Ça a pris du temps, mais on y est bien. Et ça fait du bien d'être à pied, en fait, aussi, et de balader autour des rues qui entourent la ferme. Et moi, j'aime beaucoup rencontrer des personnes que je côtoie aussi sur mon lieu de travail.
Donc, et alors, quel public, du coup, vous recevez dans l'île Utopia, en général? Et quelles relations les publics ont avec vous?
On reçoit des écoles, des classes, maternelles, primaires, des centres de loisirs, pour des petites visites de l'espace et des ateliers en même temps, de semis ou autres jardinières d'aromates. On a des seniors aussi qui viennent de leur espace senior, LM, FIV, des clubs de prévention aussi, comme Itinéraire qui vient avec ces jeunes et on construit du coup des choses ensemble et ils reviennent par eux-mêmes après. Il y a un peu de tout, des personnes aussi sans domicile avec qui aussi on végétalise la ville dans tous 4 coins pour l'instant avec les clochettes. C'est le petit nom qu'on a donné à notre projet pour construire des bacs potagers et les jardiner en fait à des moments déterminés, mais tout le monde peut venir nous aider. Donc finalement, c'est des personnes qui viennent pas forcément pour toujours apprendre à jardiner. Et je dis bien jardiner, je dis pas produire, parce que la première étape, c'est bien de chercher aussi des petits sens simples. Enfin, le jardinage, ça reste quand même ce qu'on fait, même si c'est sur des productions un peu différentes que juste un jardin partagé. Mais du coup, ils cherchent à se reconnecter, je pense, avec la nature et puis échanger sur leur manière, eux, de voir leur place. Dans leur quartier, ils ont toujours une envie en fait d'accueillir une plante, peut-être un animal, mais la plupart du temps c'est drôle, c'est vrai que c'est pas forcément pour apprendre absolument les tâches au jardin. Et je pense que ça se découvre aussi par soi-même quand l'envie est là, le collectif finalement de, moi je trouve, d'un jardin partagé ou ouvrier peut accompagner et puis on fait ses erreurs et on donne plutôt l'envie en fait, de se mettre en action dans un espace délaissé et qui peut finalement être bien, bien chamboulé. Quoi.
En fait, c'est un peu un prétexte finalement, le jardinage aussi. C'est un prétexte pour des rencontres, pour parler transition écologique. Mmh. Parce que c'est pas là que vous allez forcément produire de quoi nourrir FIV, quoi,
non,
finalement. C'est plus un lieu d'échange. J'ai l'impression.
On a une petite serre, donc on produit des plants.
Oui.
Mais des plants qui seront après à destination de votre jardin. Et on fait des petites boutures, des greffes. Mais l'idée d'apprendre et au moins de prendre conscience de quelques petites techniques.
Ouais.
Des techniques. Alors moi, j'avais trouvé sur Internet qu'il y avait une étude qui montrait que les enfants citadins sont capables de reconnaître 100, une centaine de marques uniquement avec le logo, alors qu'ils ne reconnaissent que 5 à 6 végétaux, quoi. Ils ne connaissent. C'est impressionnant, quoi. Mmh.
Et nous, c'est pas... Je sais pas.
Oui, nous. Alors là, c'est les adultes aussi. Les enfants, mais oui, voilà, les adultes, j'imagine. Ouais.
Bon. sur cette triste nouvelle.
Il y a du boulot.
Il y a du boulot, voilà.
Est-ce qu'on n'écouterait pas le morceau d'Alix ?
Alors oui, c'est un beau morceau qu'elle nous a choisi, Alix. Ça s'appelle « Le pouvoir des fleurs ». Alors, moi, je voudrais savoir pourquoi tu as choisi ce titre de Laurent Voulzy.
J'adore ce morceau. Le message à passer est là. Il est simple à jouer à la guitare et au chant au coin d'un feu le soir. Voilà pourquoi je vous le fais écouter.
Et tu joues de la guitare, Annie ?
Pas du tout.
Ah, d'accord.
Okay. Mais je chante, de temps en temps.
Ah, super. Bah, écoutez, on vous fait découvrir ce morceau et on se retrouve juste après.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses, avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes, avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles, qui écoutaient. Imagine le parfum, l'Éden, le jardin, c'était pour demain, mais demain c'est pareil, le même désir veille à tout au fond des cœurs. Tout changer en douceur, changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour de vent, grâce à des fleurs d'échange. Pour les enfants, les gens, les éléphants. Oh, tant de choses à faire, moi pour te donner du cœur. Je t'envoie des fleurs. Tu verras qu'on aura des foulards, des chemises, et que voici les couleurs vives. Et que même si l'amour est parti, ce n'est que partie remise. Par les couleurs, les accords, les parfums, changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs. Y'a une idée par dans mon air. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour de vent, grâce à des fleurs d'échange.
Waouh, le pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy, choisi par notre invitée Alix de Lilotopia, qui est aujourd'hui avec nous dans les studios de Radio Boomerang. Ça va, Alix ?
Tout va bien.
Tout va bien. Est-ce que vous avez des fleurs dans la ferme pédagogique urbaine ?
Bah oui. Dès qu'on peut mettre quelques fleurs du coup au pied de nos bacs, parce que le sol est pollué, mais on peut y mettre des fleurs. Et puis on en met entre nos légumes aussi, des cosmos, des œillets d'Inde, on a du millepertuis, des fleurs de roquette, des fleurs de ciboulette qui montent en... des plantes qui montent en graines, donc avant que la graine arrive, nous on chope les fleurs et on a même des capucines en ce moment, des petites fleurs de bleuet.
Des fleurs tinctoriales.
Aussi, t'as reçu.
Alors du coup, notre petite Louise avait une question justement par rapport à ça.
Revenons sur l'agriculture. T'as appris où à travailler dans l'agriculture, entre guillemets ?
Eh bien, je ne sais pas si j'ai vraiment eu un moment de formation clé. Moi, j'ai une formation d'ingénieur agronome. Donc, j'ai appris finalement toute la filière alimentaire, comment elle fonctionne tout au long de mes études. Et je m'orientais plutôt d'ailleurs pour travailler un peu sur des plans d'action avec les chefs de cuisine en restaurant d'entreprise ou scolaire, pour changer en fait leur manière de s'approvisionner ou d'éduquer les convives. Mais ça me manquait vraiment de toucher la terre, d'agir sur une échelle plutôt locale. Et donc je pense petit à petit, j'ai testé les choses chez moi, j'étais entourée de voisins à l'époque et d'un jardin partagé où on s'est beaucoup donné rendez-vous, ou pas du tout d'ailleurs, mais on s'est improvisé des petites sessions de jardinage. J'ai beaucoup lu, je pense, sur la permaculture, sur le jardin nourricier, sur le paresseux au jardin, laisser la nature faire. Regarder des vidéos sur YouTube, évidemment, il y a plein de personnes très inspirantes, je trouve. Et je pense que ça a fait un bout de chemin sans que je le révèle à personne. Et du coup, je voulais, je pense, après exprimer tout ça. Et le poste dont je te parlais tout à l'heure, d'animatrice que j'ai pris sur le projet en préfiguration de cette ferme, qui était juste une serre à l'époque, m'a beaucoup permis, je pense, de m'exprimer, de me laisser aussi libre de tester des cultures, et j'ai appris là-bas. Et puis j'ai fait du woofing aussi. Pendant mon chômage, je suis pas mal partie voyager en France, et sur quelques semaines, par-ci par-là, découverte de la... une ferme pédagogique, d'un espace maraîcher avec une production en vente directe. Moi, je me rendais compte que je n'avais pas envie de travailler à une échelle vraiment d'un terrain maraîcher. C'était trop pour moi ou pour l'instant. Je me voyais vraiment plus dans l'éducation populaire. Et voilà, donc il y a plein de petites notions que j'ai apprises comme ça, et que j'ai voulu reproduire à Ilotopia. Là, par exemple, cet hiver, on a fait un fumier sous couche chaude. Donc, tu vas récupérer du fumier à ronchin avec ton vélo, hop, 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 tu mets tes gros ballots de paille sur le vélo, puis tu mets ça dans un petit châssis, donc une protection sous verre, et tu te dis que peut-être que les graines que tu as mis là, avec la chaleur du fumier et la chaleur du soleil sur la vitre, elles vont chauffer, et elles vont peut-être partir, alors qu'on est en fin janvier, début février, alors que c'est plutôt... dans d'autres régions qu'on peut faire partir des graines aussitôt d'été. Voilà, donc on fait des tests.
Et alors, du coup, ce test ?
Eh bien, malheureusement, on est entouré de chantier à la ferme, donc on a dû décaler notre châssis et ça n'a rien donné. Mais on a quand même des tomates et des petites aubergines qui poussent.
Voilà, quand même, hein ? Ouais. Des bonnes tomates et aubergines du jardin, ouais. Sans pesticides. Moi, j'achète, hein.
Et moi, j'avais une question, parce que tu parlais de ta formation. Alors, on a vu quand même pas mal, justement, d'ingénieurs, d'étudiants, enfin, ingénieurs, qui, justement, refusaient un petit peu le chemin sur lequel on les menait, en fait. Toi qui as fait ces formations-là, t'en penses quoi ? Enfin, quel est ton avis là-dessus, sur la formation que t'as reçue et sur le... Enfin, est-ce qu'il y a un formatage ou pas ?
C'est une bonne question et je me la pose toujours. Nos études d'ingénieur, elles sont faites pour faire découvrir tous les métiers qui tournent autour de... Bah, du coup, la chimie du sol, la géologie, l'agroalimentaire, et le système est tel que l'embauche est là. Et je pense que du coup, faire un pas de côté et se rendre compte que bah, aujourd'hui, le système capitaliste aussi nous met sur la voie de la production, l'export, les intrants, faire partie d'une coopérative agricole... pour vendre en gros. Je pense qu'il y a des techniques, malheureusement, maraîchères qui doivent être pensées Et moi, je pense que j'avais envie, enfin, on parlait de l'utopia, de montrer aussi que on peut aussi agir en tant que citoyen et aller beaucoup plus loin dans son impact aussi écologique. Et il y a peut-être aujourd'hui on n'a pas la main mise sur tout, et donc on peut se battre, et je pense qu'il faut le faire, mais à son échelle. Moi, j'ai envie de changer le regard du coup des coopératives. Il y en a qui prennent déjà des super belles voies de semences bio et reproductibles, et du travail, justement du non-travail, de labour avec. Voilà, on a ces labels aussi haute valeur environnementale qui apparaissent plus, en tout cas pour les conventionnels, ouais, qui évoluent dans leur pratique. Je porte vraiment toutes les personnes, j'ai envie en tout cas de porter leur message, les personnes qui font ce qu'elles peuvent pour changer leur terrain de manière du coup de produire et de changer aussi leurs habitudes de consommation. Enfin, je pense qu'on est tous responsables et du coup agissons. Et je comprends que les étudiants du coup à qui on leur a dit pendant 5 ans qu'ils étaient voués à des super beaux postes et peut-être des possibilités de changer par l'intérieur, les grandes industries. Il faut avoir du cran, je pense, de l'énergie et de l'espoir et l'ambition aussi. Moi, je préfère avoir de l'ambition et de l'espoir, mais à une plus petite échelle.
Ouais, au final, c'est un peu ce que t'as fait. Enfin, t'as un peu fait comme eux. Peut-être plus en douceur.
Voilà, je pense que j'avais peut-être pas encore le discours qu'ils ont tenu. Ouais. Et chapeau aussi de faire part de tout ça.
Mais chapeau aussi toi, ton parcours finalement. Mmh. Je sais pas si dans ta formation, il y a beaucoup de gens qui ont fait un pas de côté comme toi. Ou est-ce qu'ils sont maintenant dans des grandes entreprises agroalimentaires?
Ça dépend.
Il y a un peu des deux.
Oui, il y a des deux, vraiment. Ouais. Et en tout cas, il y a quand même cette envie de porter ses propres projets qui est là. La passion est là quand même. Hein. Je pense qu'on fait ces études, c'est aussi qu'on a envie de creuser un sujet d'aquaculture ou de agriculture biologique. Et si, j'ai globalement des personnes qui militent, mais en faisant partie quand même de grandes entreprises. Mais elles le font quand même.
Et plus que jamais, vu le contexte actuel, il est grand temps de se réapproprier tout ça. De faire bouger les choses, quoi. Mm-mm. Bravo à toi. Je voulais juste aussi le dire moi-même. Puis j'avais une petite question aussi. Est-ce que l'île Utopia a inspiré d'autres projets
Je ne me rends pas compte. Je pense qu'on essaie beaucoup de faire de liens avec d'autres jardins, d'autres assos. Et je pense qu'on inspire des personnes dans leur changement de cap professionnel ou de leur envie d'aménager leur jardin autrement, de sortir de chez elles aussi. Et finalement, c'est ce que je retrouve dans le parcours un peu des bénévoles qui deviennent membres. Et c'est assez agréable à réaliser quand ils nous font part de leur parcours aussi après coup. Mais on verra si d'autres espaces comme ça de serre pédagogique avec tout petit espace s'implantent chez des bailleurs sociaux ou dans d'autres espaces aussi associatifs. Moi, je souhaiterais en tout cas, de là à ce que là on lance une duplication de l'association, j'en sais rien, mais
j'aime semer des graines.
Ouais, c'est ça l'idée.
Mais d'ailleurs, on avait reçu Fred du coup des voisins jardiniers l'année dernière. Est-ce que je pense que elle est peut-être sur un autre projet actuellement, mais est-ce que à un moment donné vous avez fait du lien, j'imagine que oui, entre nos voisins les jardiniers et l'île Utopia. Ils se faisaient des trucs.
Oui, on a été à découvrir leur petite pépinière, là, la PEPS, qui a été lancée aussi avec les Saprofit. Super, une table à marée, lancement aussi de bouturage, marcottage d'autres plantes. Puis, c'est des personnes que je croise et du coup, je leur ai proposé d'ailleurs qu'ils viennent visiter la ferme un samedi matin à l'occasion en groupe. Puis, eux font de super sorties aussi. J'aime bien leur esprit de chantiers ensemble.
Ouais, en fait, ça se, enfin, c'est pas du tout la même chose et ça se complète, ça touche pas les mêmes personnes.
Ils veulent visualiser aussi au plus les façades et ça, c'est permis par la ville. Il faut juste donner son dossier et attendre un petit peu. Mais. Ouais. Non, c'est un beau collectif aussi.
Mais il se passe des choses à FIF quand même.
En tout cas, beaucoup de liens avec des tas d'assos.
Ouais, ça bouge bien.
C'est un beau réseau, oui, sur FIF. Et moi, j'ai des questions. C'est ton métier, donc ?
Oui.
Donc, tu as créé ton emploi ?
Oui.
C'est beau, non ?
Oui. C'était un parcours du combattant aussi, mais
chapeau.
Il y a beaucoup de personnes qui entourent les personnes qui veulent porter un projet. Et j'ai pu aussi me faire aider de plein d'autres personnes qui ont cru aussi, je pense, au projet, qui m'ont permis de me soutenir, pas seulement moi à la tête de l'asso. Hein, j'étais entourée.
Vous êtes en équipe.
Oui, mais toujours.
Et super.
Ouais, je pense que j'ai
fait. Mais t'es salarié ?
Oui, depuis un an en CDI.
Ah, bravo !
Bravo !
Donc tu n'es plus présidente ?
Non. Ou... Non, maintenant il y a deux coprésidents.
Ouais.
Et puis bon, après, je suis toujours responsable aussi de trouver des projets, des financements, des prestations pour financer.
T'es pas que les mains dans la terre en fait.
Non, on va à l'une de rien. Ouais. Mmh. C'est une coordination quand même. À gérer, mais j'aimerais bien mettre mon énergie pour accueillir une deuxième personne comme ça salariée avec moi, qu'on puisse se partager les rôles, et j'aime bien interagir en équipe aussi. On a Grégory, notre alternant qui est là, mais lui il se destine à peut-être creuser encore plus le paysagisme l'année prochaine, donc dans 2 ans. Donc voilà, je pense qu'après on peut imaginer d'autres personne, et j'aime bien cette gouvernance aussi peut-être à l'horizontale, où on a chacun nos cordes, peut-être moi je vais préférer plus les plantes maraîchères, l'autre on pourra peut-être préférer plus la fabrication d'abris, insectes ou un autre petit rongeur ou quoi, et on va se partager peut-être les publics, mais on se retrouvera quand même à la ferme pour échanger, on verra.
Alors c'est quoi ce serait quoi votre prochain projet fou si t'avais plein de sous, plein de subventions et tout.
Alors là,
c'est quoi le projet rêve ?
Bah là, il y a un espace qu'on nous a proposé la semaine dernière à FIFCAI, justement, de serre au dernier étage d'une halle industrielle qui va être terminée en fin novembre prochain. Donc c'est 570 mètres carrés. Avec récupération d'eau, fenêtres ouvertes, fermées, avec tout ce qui finalement pourrait être nécessaire pour gérer une serre. C'est 17 000 euros par an quand même. Donc finalement, ça se résume à trouver finalement une personne qui gérerait entièrement la serre et en faire un espace de encore plus grand de bouturage pour peut-être trouver une alternative à toutes ces jardineries qui produisent et qui vont aussi acheter beaucoup de plants en Hollande et les revendre ici. Je pense que des petites jardineries à l'échelle de quartier, ça peut aussi beaucoup plaire. Et cette serre, malheureusement, elle n'est pas accessible au public. C'est peut-être ça que moi qui me questionne. Il faudrait trouver un autre relais aussi pour nos ateliers. En tout cas, le food court qui va s'ouvrir en septembre, on nous a donné la mission de le végétaliser. Donc là, c'est plein de challenges aussi de plantes vertes, quels bonsaïs on va mettre, plantes finalement vont grimper sur les murs, des houblons qu'on fait là, qu'on cultive depuis 2 mois et qui attendent qu'une seule chose, c'est d'être aussi replantés pour courir sur les tiges métalliques là, de la serre et puis de l'espace extérieur. Ouais, on peut déjà agir sur l'éco-quartier qui sort de terre avec le futur parc aussi qui va ouvrir. Ça peut être bien.
Et donc ça, du coup, c'est un projet un peu fou, un projet de rêve
pour toi ? Ouais, parce que pour moi, c'est inatteignable dans 6 mois.
Ah, ouais.
En même temps, on nous a proposé, et je me dis, bon, on est juste à côté, ça serait quand même super de profiter de cet nouvel espace. Mais c'est à réfléchir et je trouve que disséminer aussi plein de petites plantes par-delà la métropole, c'est quand même déjà bien. Et c'est ce que moi, j'aime le plus faire, je pense. C'est petit, mais en même temps, ça égaye la curiosité quand on passe. Et on se dit, tiens, récolte de graines, petite grainothèque juste à côté, puis on fait des échanges de graines après. Bon.
Alors, en parlant de graines, on va passer à une chanson. Non, je voulais faire ma petite transition avec Hummingbird. On va parler plutôt d'oiseaux. Hein. Les oiseaux aiment bien les graines. Ça vous dit une pause musicale ?
Oui.
Alors, c'est un morceau qu'Alix, notre invité, nous a choisi. Et donc, on se retrouve après. Allez.
Allez, let's go.
It's a long, long road to reach your house, and I arrived just before the sunset. And you said, welcome with your eyes, and we said. Nothing at all. Oh, we have been to many churches, but we never believed. We have been to many churches, but we never believed.
Ça repart.
Eh oui, c'est ça quand on aime la musique. Alors, c'était un petit morceau qu'Alix nous a choisi. Pourquoi ce Hummingbird ?
Eh bien, je l'ai entendu jouer. Je l'ai entendu jouer par des amis l'autre jour, Yokulele, que j'ai adoré. Ah. Ça m'a rappelé des souvenirs. Voilà, j'aime bien ce groupe. Et Hummingbird, Colibri, ça a beaucoup de sens, je pense, dans nos petites actions du quotidien.
Ah, ouais.
Bah, un très beau morceau, en tout cas, qui nous a apaisés. On est bien, on est bien.
Louise, je pense qu'elle avait encore une question.
Questions, Louise.
Non, bon, ça, c'était un piège que je lui ai tendu. Moi, j'avais peut-être une question, parce que finalement, on n'a pas forcément défini ce qu'était l'agriculture urbaine. Alors, est-ce que l'agriculture urbaine se calque sur l'agriculture classique, ou justement, c'est quelque chose de nouveau qu'on réinvente?
Je pense pas qu'on le réinvente, parce que l'agriculture urbaine, c'est tout autant le jardinage dans nos potagers que ces nouvelles techniques de production en conteneur ou sur les toits. Elle est tellement variée. Je pense qu'on en fait un terme générique utilisé par tous les moyens de aussi Enfin, je me dis que c'est un terme qui, moi, me fait pas peur d'être utilisé. Ça peut être un peu dérangeant, parce que l'agriculture, effectivement, on est d'accord qu'elle se trouve en campagne et elle a beaucoup, beaucoup de besoins de soutien et d'être aussi changée dans les pratiques de sol vivant. Et je pense que la priorité est là-bas. Mais l'agriculture urbaine, c'est une des nouvelles filières un peu aussi peut-être professionnelles en fait, qui s'ouvrent de produire à côté de chez soi, vendre en direct avec une distribution finalement qui transforme. Enfin, on est sur de l'achat hyper local, une conservation dans tous les cas, oui, qui peut l'être en produits séchés, produits fermentés, produits en conserve. Et pour moi, il y a tous ces aspects-là aussi à prendre en compte de la filière alimentaire. Bon, l'agriculture urbaine, voilà, elle est pour moi faite de ces potagers en jardin chez nous, de jardins partagés familiaux qui existent dans le Nord depuis des dizaines d'années. Et ils existent toujours et ils permettent vraiment de subvenir à des familles pour leur alimentation. Gardons ça déjà et puis dépliquons-les. Les techniques après de hors sol, sur les façades ou sur les
toits
aussi, ça c'est hyper effectivement novateur et faut bien calculer c'est l'importance, quelles plantes on veut mettre là-haut finalement. Je pense que les arbres c'est peut-être pas adéquat, mais il y a quand même des cultures maraîchères qui demande pas tant de profondeur de terre que ça, des insectes qui peuvent être accueillis là-haut aussi.
En fait, c'est accueillir, revégétaliser des zones urbaines. Surtout que Lille, par exemple, est très urbanisée. Ça, c'est très urbanisé. Il y a peu d'espace vert. C'est ce qui a été aussi reproché avec la friche Cinceau, tout ça. Donc, en fait, c'est aussi cette idée-là de ramener le vivant en ville.
Oui, c'est ça. Au plus qu'on puisse, et ça peut qu'apporter, je pense, du bien. On a besoin de ces espaces de rencontre, de vagabonder, de même sanctuariser la biodiversité, comme on disait tout à l'heure. Je pense qu'on a besoin de laisser ces réserves et puis pas tout contrôler. Laissons là aussi la nature faire. Enfin, je pense que l'homme, on a tendance à toujours vouloir agir, faire, barricader, et puis non, ouvrons, et puis laissons aussi les personnes qui se sentent de se saisir aussi d'un espace le faire. Enfin, je pense qu'il faut laisser aussi confiance et avoir conscience qu'on peut en faire quelque chose de beau et quelque chose de bon sans non plus tout
contrôler.
Ouais.
D'ailleurs, en ce moment, on entend les moteurs. Pardon, Nat.
Non, c'est plus. Je disais. Il y a cette visée aussi de la ferme pédagogique urbaine, une grande visée sociale culturelle, pédagogique, sociale. Enfin, le fait de se faire rencontrer les gens. Enfin, c'est juste superbe, quoi. On manque de liens avec le Covid. Voilà, les gens se sont un petit peu enfermés chez eux. Voilà, le fait d'organiser ces fermes urbaines, c'est rassembler les gens autour de la nature. Enfin, je trouve ça magnifique, quoi.
Puis parfois, on me dit, c'est vrai qu'on a des projets qui sont temporaires. On sait que la friche, elle va être après détruite pour un nouveau projet. Mais ça a quand même du sens de y faire vivre pour moi des lieux de d'échange production sur place. Et puis, en fait, ça donnera peut-être lieu à un changement dans le projet. Je pense toujours se renseigner sur les temporalités des projets qui nous entourent. Il y a plein de friches qui existent et qui ne seront jamais d'ailleurs reconverties en quoi que ce soit. Donc, mettons-y le grappin dessus. Et puis, ici, un petit projet construit. Ouais, on peut s'en emparer, quoi.
Et bien, sur ces jolies paroles, on va passer le micro à Gaëlle, qui a donc écrit, qui a pris des notes, qui a écrit, je sais pas, donc du coup, tu as écrit
en direct,
mais un des poème échanges. Ou ouais. C'est sous forme, quelle forme?
C'est un texte poétique.
C'est un texte poétique, oui, tu n'as pas fait les rimes et tout, c'est difficile.
Des alexandrins.
Bien sûr.
Alexandrin.
Bien sûr.
Pendant qu'on parle et tout, ça va être un peu compliqué. Bah écoute, lance-toi quand tu veux.
Es-tu prête ? Oui, je suis prête.
Eh ben, vas-y.
Ça s'appelle « Envers et avec tous ». Alix parle dans le micro vert, « Envers et avec tous ». Son terrain, c'est Fifkai. C'est l'Île-Utopia. C'est une ferme urbaine qui rend l'espace comestible. En ville, on peut cultiver. On peut voir la vie en vert et croquer du légume à pleines dents. Fleurs, aromates et plantes maraîchères. Plante tinctoriale pour la teinture végétale. Îlot de fraîcheur. Îlot des futurs solidaires. Des communs lumineux. Des lendemains radieux. Comme une abeille, Alix dissémine ses idées en archipel. Cuisine commune, élevage de vers. Aquaponie, culture hors sol, comme un poisson dans l'eau, en harmonie inter-espèce. Pépinière des possibles. Alix égrène, plante, cultive, cuisine, transmet, donne, échange, teste, infuse les esprits vers un avenir meilleur. La tête en friche, pour germer les idées, elle imagine, co-crée, co-anime des espaces ouverts à tous, lieux multiculturels, petite lune pour dévoiler les faces cachées de chacun en optimisme partagé. Végétalisons la ville avec les clochettes. Alix, telle une abeille, essaime sans compter, essaime en plantant, partout, pour tous. La nature n'aime pas le vide. Elle pousse dans tous les interstices. Le système capitaliste doit être repensé, infiltré, infusé, pas à pas. Chaque citoyen a un pouvoir, un rôle à jouer, à son échelle. Et puis, petit à petit, les coopératives, les plus gros, prendront le pas et davantage de risques. Cran, énergie, espoir et ambition. Alix a fait un grand pas de côté, ou plutôt un grand pas en avant vers la vie, envers et avec tous.
Mmh. Oh là là,
wow.
Alors là, on est scotché, hein.
Quelle
on performance.
Regardez
là avec Louise, incroyable.
Quelle plume.
Bravo. C'était superbe.
Ah bah, c'est ce qui émane de toi.
C'est dingue.
Ouais, bravo, vraiment.
Alors peut-être une prochaine avec un ukulélé ou quelque chose.
Alors ça, ce serait challenge level 2.
Oui, peut-être, parce qu'il faut caler, c'est ça, faut que tu cales après.
Il faut caler la musique avec le texte frais.
Donc ça, c'est chaud. Enfin, ouais. C'est même quasi impossible, puisque il faudrait que tu aies un temps de...
Impossible n'est pas pipeau.
Bah, bravo. Oui.
Ouais, super.
Alix, un mot sur ce texte?
J'ai envie de le mettre sur du papier ensemencé, après à distribuer pour les vacances à tout le monde. Et je sais pas, ou inviter tout le monde à écrire ce que tu as fait, en fait, tellement en interviewant peut-être pendant là cet été quelqu'un qui vous intrigue et vous donner le challenge de faire la même chose sur quelques lignes peut-être, mais je pense que c'est intéressant comme travail.
Ouais, carrément.
Moi, j'ai envie de le tester en tout cas.
Mmh. Et bah, testons après. Moi, je serais ravie de faire de l'atelier d'écriture aussi, mmh, pour parler de tout ce que vous faites. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours mettre les mots sur ce qui se passe. Et
ouais.
Et j'aime beaucoup diffuser la parole des gens, comme on peut le faire avec Hélène sur différents projets. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien, mais on se retrouve toujours à parler de nature. Ça revient sans cesse, en fait.
Il y a le côté que quand on est dans la nature, on se sent bien. Et du coup, notre créativité, j'ai l'impression, elle...
Elle est décuplée.
Ah, c'est ça. C'est carrément ça. On se sent mieux, on sent le corps est plus zen.
L'autre jour, je me disais que dans le jardin, le J, en fait, il me faisait penser à plein de choses. À un petit portant, enfin, de parapluie, mais sans sa voile. À un petit arbuste avec sa première racine qui s'enfonce. Il y avait le petit asticot. Enfin, je voyais plein d'images derrière le J et j'avais envie de les dessiner dans d'autres pancartes de jardin.
Tu es poète aussi.
Il y a une richesse dans cette nature.
Et finalement, même, tu as réussi à faire ton petit cocon en ville. Finalement, c'était un lieu industriel qui doit être super pollué. En fait, la terre doit être super polluée. Et malgré tout, même de ça, on arrive quand même à créer des espaces où on accueille le vivant, finalement.
C'est ça.
C'est fou.
Ouais, et puis chez vous aussi, il y a d'autres possibilités. Nous, c'est tout petit, mais on s'y sent bien. Et le but, c'est que chacun aussi soit bien chez soi et dans un espace pareil.
Mais ça me fait penser à ce que disait Fred quand on l'avait invité. Et peut-être qu'on n'y pense pas assez, mais que nos jardins, quand on accumule tous nos jardins, en fait, ça fait des espaces naturels énorme.
C'était beau quand
aller à l'échelle de. En fait, c'était un petit bout de terre, c'est ça qu'elle avait dit.
Chaque petit bout de terre,
chaque jardin est un petit bout de la terre.
Ouais.
Et c'est vrai qu'en fait, nos jardins ont un rôle à jouer super important. Mais il faut faire, je pense, encore de la sensibilisation pour mettre le doigt là-dessus et que les gens sachent que chez eux aussi, il y a un impact pour accueillir le vivant. Mais c'est vrai qu'on est dans. Dans un esprit de tout tondre, couper, que ce soit nickel.
De nature propre.
Ouais, faut que ce soit propre. Sauf que,
pas négligé.
Pas négligé, c'est ça.
Et alors, peut-être, Alix, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui souhaiteraient implanter une ferme urbaine, une petite ferme, ou se lancer dans...
Ou rêver sur son balcon.
Pourquoi tu...
Quel conseil,
Tu veux te lancer ?
Non, mais pourquoi ? oui, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui adoreraient se lancer, mais ils ne savent pas comment on fait. Tu vois, c'est un parcours du combattant, quoi, au final.
Ne pas avoir peur des insectes.
C'est clair.
Je pense en proposer ça aux personnes que vous rencontrez, son voisin, ça peut toujours faire germer des idées d'être avec d'autres. Ne pas arracher toutes les feuilles de son basilic quand on l'achète et le mettre en eau et ça repartira de plus belle. Il y a des petites finalement simplicités qu'on oublie. Je ne saurais pas dire, faire une petite réserve de graines déjà, avec celles qu'on va manger dans notre assiette là cet été, de melon pour l'année prochaine, de courge aussi, à griller ou à manger. Et puis bien sûr, dans ce cas-là, vous allez savoir, vous allez peut-être pas réussir la première fois, parce qu'elles vont moisir, ou alors vous allez chercher dans des vieux bouquins à la bibliothèque, peut-être que ça marchera pas, et vous viendrez à la grainothèque de l'île Autopia ou de la Bresse l'année prochaine en prendre, et puis vous saurez peut-être l'année d'après mieux conserver ces graines. C'est petit à petit, avoir un compost.
Alors oui, les composts,
planter des fleurs mellifères.
Aussi.
Sur son balcon, plutôt que des géraniums.
Oui,
mais c'est vrai, en fait, plus que se dire on va se lancer dans un projet de ferme, c'est déjà qu'est-ce qu'on peut faire chacun chez soi.
À notre échelle, de manière
même
simple.
Même avec un balcon, finalement. Parce que toi, t'as réussi à faire ça sur une friche, sur des terres qui n'étaient plus très
Des terres
propres,
hostiles.
Sur des terres hostiles.
Elle n'a pas eu
comme
peur.
Quoi, tu peux le faire partout, quoi.
Oui.
Donc, c'est un Nat. T'as un balcon ?
Eh bien, j'ai un balcon fermé, donc très plein sud. Donc, pareil, tu vois,
T'as une serre, en fait ?
Je pense que, ouais, c'est comme une serre.
faut faire pousser des tomates à fond.
Des melons.
Et ben,
des
voilà, melons. Je vais venir prendre des cours chez Alix parce que voilà, il faut se lancer. Et peut-être le compost du coup dans l'appart aussi parce qu'on a, on sait pas comment faire un compost, comment ça se passe. Franchement, moi je sais pas du tout quoi.
Il y en a pas en bas de chez toi parce que j'ai vu qu'il y en avait de plus en plus.
Ah ouais, les composteurs collectifs, ouais. C'est chouette ça.
N'a pas. Non non, il y a pas chez nous. Donc comment on fait quoi?
Ça va venir. Hein. En tout cas, on doit trier à la source en 2024 tous nos biodéchets. Donc les villes se doivent de proposer des solutions, donc de compostage participatif, d'éducation aussi. Et ça va venir, j'espère. L'ombré composteur, c'est bien. Un composteur participatif avec des cafés compost tous les mois, c'est encore mieux.
Ah ouais.
Mais aussi, ça fait un moment à FIV qu'il y a ces composteurs collectifs. Parce qu'avant, j'habitais à FIV et c'était quoi, il y a 5 ans? Et depuis peu, j'en vois un peu plus dans d'autres quartiers. Mais c'est vrai qu'à FIV, il y en avait déjà, peut-être dans les premiers quartiers. Ouais.
Dans tous les jardins aussi des ajoncs, il y en a toujours eu.
Oui,
dans les jardins partagés des ajoncs. Mmh.
Donc c'est bien, même si t'es en appart, du coup, tu peux quand même...
Composter
et ne pas jeter ces biodéchets...
Tout à fait.
La poubelle noire.
C'est voilà. Bon, sinon Alix, peut-être revenir sur tes actus, l'actu de l'île Autopia. Où est-ce qu'on vous retrouve? Est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook?
Eh bien, vous pouvez nous retrouver sur la ferme, c'est le mieux.
En vrai.
On ouvre tous les mercredis après-midi et les samedis matins. À qui veut passer nous dire bonjour, piocher des graines, emprunter des outils ou récupérer du jus lombricompost. On a des ateliers, là, deux en juillet, le 12 et le 28, notamment le 28 sur l'hydroponie, si vous voulez venir découvrir ça.
Ah, bah, Gaëlle. Oui. Voilà. Je vais pouvoir dire, je peux pas. J'ai hydroponie.
Et après, il y aura peut-être aquaponie. Putain.
Et aquaponie.
Non.
Super. Ouais,
voilà. Je pense que l'été s'annonce encore bien chaud. Donc, on reste sur la ferme pour gérer les productions et faire quelques animations quand même. Et puis, retour en septembre pour justement, je pense qu'il y a un atelier à la ferme urbaine de Saint-Sauveur qui est organisé sur l'aquaponie un samedi après-midi pour binôme parents-enfants.
Oh.
Après, il y a les journées européennes.
Je vais devenir experte.
Ah oui.
Il y a les journées européennes du patrimoine le 16 septembre, les fêtes des familles organisées par l'école et son quartier et notre assaut de FIV le 24, il me semble, septembre. Voilà, on fera sûrement un troc de plantes parce que c'est le début d'année, donc on a tous des plantes peut-être chez soi à bouturer, à partager.
Ah bah, oui, mais donc du coup, on retrouve ces infos sur votre site internet,
sur la page Facebook, et on envoie une newsletter tous les débuts de mois pour annoncer
que
aussi.
Je reçois. Et mais d'ailleurs, votre com est très sympa aussi. C'est un plaisir de lire vos petits posts Facebook.
Que j'aime.
C'est rigolo. Ah, tu suis aussi.
Mais du coup, j'ai regardé tout à l'heure aussi toutes les posts que vous faites, vous mettez. C'est riche.
C'est intéressant.
C'est intéressant. Et belles photos.
C'est une bénévole, non, qui s'occupe, ou c'est toi qui fais la com?
Pour l'instant, on la partage.
D'accord.
On avait une alternante à l'époque, mais qui a pris le chemin de la Colombie. Alors, nous partageons la communication et c'est rigolo. Moi, je trouve une petite... pas passion non plus, mais en tout cas, j'y porte plus d'intérêt et de cœur à l'ouvrage, à le faire qu'avant. Je pense que ça me paraissait... Et loin de tout ce que je savais faire, puis finalement...
C'est rigolo, finalement, à tourner ça de manière sympa.
Et puis on a des mascottes, quoi, les poules et les...
Bah oui, oui. Ah,
franchement, elles sont drôles.
Les mascocottes.
Bon, eh bien, le temps passe et nous arrivons à la fin de cette émission. Et en plus, tu voulais nous passer un dernier morceau avant de partir.
Ouais, en partir en Colombie.
Et oui, d'ailleurs, on va partir en Colombie avec la bénévole. Eh bien, merci Nat, merci Louise et merci Gaëlle pour ton morceau. Et encore bravo parce que c'était de toute beauté. Franchement, on est scotchés. Tu nous le referas, on espère.
Bah oui, si vous voulez.
Bah oui, on veut. Et merci beaucoup, Alix, d'avoir passé cette heure avec nous. C'était très sympa de découvrir ton projet, puis de te découvrir toi un petit peu mieux. Et en attendant, n'oubliez pas...
Les murmures ont des oreilles.
émission du Buena Vista Vidéo Club.